Paul, on utilise de plus en plus Skype puis FaceTime dans notre vie de tous les jours pour jaser avec la famille, pour des réunions de travail. Il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent ça pour faire des entrevues d'embauche. Mais pourquoi on n'utilise pas ces systèmes-là pour des consultations médicales, mettons? La télémédecine, ça existe. C'est une technologie qui est éprouvée, mais ça reste encore pas mal limité au Canada. Et notre prochain invité vient de produire une étude sur cette question-là. On rejoint Patrick Derry, il est analyste associé senior à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, Monsieur Derry.
Oui, bonjour, ça va bien.
Ça va bien, vous?
Mais oui, ça va bien.
C'est possible de consulter à distance au Canada, sauf que c'est encore marginal pas mal.
Oui, exactement. Vous avez 1% des Canadiens qui utilisent présentement les soins virtuels. C'est quelque chose qui est en développement. Vous avez de plus en plus d'entreprises qui offrent à leurs employés, souvent par des régimes d'assurance collectifs, la possibilité d'avoir des consultations virtuelles. Puis dans le système public, ça existe depuis longtemps, mais c'est pas beaucoup plus qu'à l'état de projet pilote dans la plupart des provinces, ou sinon c'est limité à des catégories de patients.
Puis c'est pas faute d'intérêt de la part des patients. Là, on serait même prêt à payer pour ces services-là dans bien des cas.
Ah oui, absolument, absolument. C'est drôle que vous mentionnez ça parce qu'il y a un sondage justement qui posait la question si les gens s'y étaient intéressés puis s'ils étaient prêts à payer. Puis je pense que la réponse est 40% des gens qui seraient prêts à payer pour ça, puis pour des raisons évidentes, parce que une visite chez le médecin, souvent c'est des déplacements, c'est de l'attente, ça peut être une journée de travail manqué. Mm-hmm. Donc c'est coûteux, c'est pas pratique. La télémédecine apporte d'énormes avantages là-dessus.
Est-ce que ça pourrait contribuer à sauver de l'argent dans le système?
Oui, absolument. Absolument. Puis pour deux raisons. D'abord, parce que des soins qui sont produits en consultation virtuelle, ça ne demande pas la même infrastructure puis les mêmes installations. Hein. Vous prenez un téléphone, le médecin prend un téléphone, en tout cas un ordinateur, un appareil portable. Oui. On n'a pas besoin d'avoir la salle d'attente, tout le réseau, toute l'installation. C'est des soins qui coûtent moins cher. Souvent, ça permet d'éviter des consultations. Puis ça, il y a des études qui ont documenté ça, là, sans entrer dans les détails. Fait qu'il peut avoir de l'argent qui est sauvé. Mais c'est aussi intéressant du point de vue du côté entrepreneurial, dans le sens où, pour les employeurs présentement, l'absentéisme médical, c'est des coûts énormes. Puis à un moment donné, c'est pas juste l'employé qui est malade, c'est l'employé qui veut juste essayer de se faire soigner. Ça présente des coûts qui sont très importants. Fait que pour les entreprises, il y a des gains à faire en finançant ça, mais si on met ça à une échelle beaucoup plus grande, hein, puis aux États-Unis maintenant, c'est encore en train de se développer, mais vous avez une grande partie des entreprises là, de plus grande taille qui offrent ça. Mm-hmm. Si on imagine que des millions de consultations ont lieu comme ça, ça désengorge aussi le système public qui est complètement congestionné présentement, puis ça libère de la place justement pour pouvoir soigner plus de gens.
Donc, il y a clairement des avantages à développer cette technologie-là. Pourquoi ça bloque?
Pourquoi ça bloque? Ben, écoutez, il y a plusieurs raisons. Pour du côté entrepreneurial, vous avez les permis de pratique que les médecins doivent détenir. C'est-à-dire que, mettons, si vous êtes un médecin en Alberta, puis vous voulez pratiquer au Québec, vous avez déjà votre permis en Alberta, vous allez avoir besoin d'un permis de pratique au Québec aussi. Et ça, c'est des vieilles barrières qui existent depuis longtemps pour la pratique traditionnelle. Mais en télémédecine, ça n'a plus vraiment de sens en pratique traditionnelle non plus, parce que les Canadiens sont pas très, très différents d'une province à l'autre. Oui. Mais quelqu'un qui pratique en télémédecine, un matin, il peut avoir une consultation avec un patient d'Alberta, après ça au Québec, après ça au Nouveau-Brunswick. Fait qu'avoir plusieurs permis comme ça, ça rajoute des coûts, ça rajoute de la bureaucratie, c'est compliqué. Mais après ça, vous avez aussi, tout tourne autour des médecins dans notre système de santé. Fait que, donc, les infirmières, les pharmaciens, par exemple, qui pourraient en faire plus, pourraient aussi en faire plus du côté des soins virtuels. Puis si vous allez dans le système public en particulier, là, vous avez toutes sortes de barrières que l'État impose, des conditions pour que les médecins puissent offrir ces soins-là, des conditions pour les patients aussi. Hein. C'est souvent les patients en région éloignée qui sont admissibles ou qui ont des conditions chroniques. Ou même, des fois, ce qui est encore plus ridicule, c'est que l'État va exiger qu'un patient se déplace dans un établissement de santé pour recevoir des soins en consultation virtuelle avec un autre médecin qui est ailleurs.
On vient de perdre l'avantage un peu, là, mettons.
Ben, un petit peu, oui. Mais il y a ce genre d'absurdité-là qui fait. Puis, tu sais, c'est des gros bateaux, des systèmes de santé. Puis, la dernière chose, c'est la façon dont on rémunère nos médecins. Tous les actes que les médecins accomplissent sont définis pour qu'ils puissent les facturer. Fait que quand quelque chose n'est pas défini, le médecin n'est pas payé, puis le médecin ne fait pas. Mm-hmm. Fait que c'est la raison pour laquelle le médecin prend rarement le téléphone pour vous donner des nouvelles sur un résultat de test. Il va vous faire venir en personne. C'est la même raison pour laquelle vous n'avez pas de consultation virtuelle.
Est-ce qu'on a peur qu'en rendant ça plus accessible, il y ait plus de consultations, qu'il y ait plus de demandes, étant donné que les gens n'ont pas besoin de se déplacer? Souvent, ben ils se disent, bon, je suis au bout de mon téléphone ou je suis au bout de mon écran avec une consultation à distance, je vais en profiter. Est-ce que ça pourrait augmenter le volume de consultations?
Oui, c'est une super bonne question que vous posez là. Puis effectivement, là, si toute autre chose étant égale, c'est sûr que ça pourrait augmenter les coûts, sauf qu'on sait que le coût des consultations virtuelles est moins élevé. Fait qu'il peut avoir des économies à faire de ce côté-là. Mm-hmm. Il peut avoir des économies à faire aussi parce que les entreprises, pour eux autres, ils peuvent aussi assumer une partie du fardeau, puis c'est gagnant-gagnant, puis c'est rare que c'est vraiment comme ça parce que eux, présentement, ça leur coûte de quoi l'absentéisme médical. Fait que pour eux, ils peuvent diminuer leurs dépenses pour l'absentéisme. Du côté du système public, c'est des soins qui peuvent coûter moins cher à donner. Oui. Puis évidemment pour le patient, ben c'est y a pas de coût additionnel, c'est gagnant. Fait que oui, à prime abord, ça peut être ça, mais en réalité, il y a probablement des gains de productivité vraiment importants qu'on peut faire. Mm-hmm. Puis finalement, l'autre chose qu'on peut faire aussi, tu sais, il y a des questions beaucoup de rémunération des médecins récemment. Oui. On peut rémunérer différemment les médecins pour pas justement multiplier les actes, mais mm-hmm. aller plutôt vers des modes de rémunération où les patients sont pris en charge. Si on regarde les résultats plutôt que regarder chacun des actes. Puis évidemment, mm-hmm. On peut déléguer aux infirmières puis aux pharmaciens. Là, ils attendent juste de pouvoir en faire plus.
Si on regardait vers l'avant, si on avait une boule de cristal, selon vous, est-ce qu'on va devoir compter sur le secteur public pour développer ça ou est-ce que ça va être vraiment le privé qui va pouvoir être chef de file en matière de télémédecine?
Ben, écoutez, moi, je pense que c'est sûr qu'au Canada, la grande majorité des soins va continuer à être livrés par le secteur public. Par contre, il peut y avoir des partenariats qui sont faits entre les deux. Si on a présentement des services financés par le gouvernement dans des cliniques à Montréal, où il y a des chirurgies d'un jour qui sont faites dans des cliniques privées, mais les patients payent pas. Mm-hmm. Ça se fait à l'intérieur du secteur public. Fait que il peut avoir ce genre de partenariat-là. L'autre chose aussi, dans le cas que les entreprises aient un apport aussi, puis si vous voulez qu'ils soient, c'est le secteur entrepreneurial, il est plus dynamique aussi, oui. qu'ils puissent intervenir là-dedans, c'est pas une mauvaise chose. Puis dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est absolument quand on parle de privé, on dit on va payer. Mais là, dans ce cas-ci, quand les employeurs s'en mêlent, c'est les employeurs qui payent pour leurs employés parce que eux, c'est des économies pour eux autres. Fait qu'on a avantage à abolir les barrières. Fait que ça va se développer du côté entrepreneurial, mais évidemment, il y a des gains importants à faire du secteur public, puis il y a des solutions à aller chercher de ce côté-là aussi.
Merci beaucoup, M. Derry, pour la mise à jour sur cette technologie-là. Très apprécié.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Au revoir. Patrick Derry est analyste associé senior à l'Institut économique de Montréal. C'est lui qui était responsable de cette étude-là sur la télémédecine au Canada.
Jeff, oui? Quand tu perçois les premiers symptômes d'une éventuelle maladie, on ne sait pas trop, mais quand tu as des symptômes, mettons tu commences à avoir mal à la tête, mal à la gorge, oui? quelque chose. Dans quelle catégorie de patient es-tu? Es-tu le patient? Et je vous pose aussi la question aux auditeurs, vous pouvez nous répondre par 25226. Êtes-vous le patient qui, A, s'en va directement à l'urgence ou à la clinique sans rendez-vous? B, qui va sur Google et qui Google ses symptômes et qui est convaincu après ça qu'il a le cancer de la vie. Ou C, le patient qui fait comme, moi, ça va passer, puis finalement, qui se fait jamais diagnostiquer sa maladie puis qui veut pas aller à la clinique. Je répète mes choix. A, direct à l'hôpital ou à la clinique, à l'urgence. Mais pour des symptômes, là, on va dire des symptômes fréquents, de mal de gorge, mal de... peu importe. B, c'était quoi déjà?
Dr. Google.
Google. Ou C, t'essayes de l'oublier parce que tu veux pas aller à la clinique.
OK. Il y a un D, le 8-1. Info centrale.
Ah, toi, tu fais le 8-1. Ah bon, non, c'est mais vrai qu'en fond, c'est la bonne solution.
Moi, je suis plus Dr. Google, pour vrai. Puis là...
Pourquoi je suis pas surpris de
non,
ça?
Non, mais tu rentres dans un tunnel à ce moment-là, tu trouves une information, tu te dis, hey, ça pourrait peut-être être ça. Là, tu te mets à chercher sur cette maladie-là. Puis là, il va avoir une liste de symptômes. Puis là, tout d'un coup, tu vas remarquer que, ouais, finalement, ça pourrait peut-être s'appliquer à moi. Des fois un peu. Okay. Mais imagine le docteur, là, avant Internet, le docteur était Dieu en matière de médecine. Là, tu arrives dans le cabinet du médecin, tu dis, ouais, docteur, j'ai telle affaire pour lesquelles je viens vous consulter. Ça pourrait être ça. Ils doivent-tu virer fou pareil? Tu sais, quand tu magasines un char, là, tu vas lire en ligne, puis des fois, tu vas pouvoir poser des questions plus précises à ton représentant chez le concessionnaire, puis tu vas en apprendre davantage, tout est beau. Mais quand c'est le médecin qui se fait challenger par un patient qui est allé voir Dr. Google avec des sites plus ou moins fiables, il doit vouloir s'arracher les cheveux de sa tête pareil.
Je suis content qu'il y ait beaucoup de C, parce que moi, je suis dans les C, celui qui ferme les yeux et qui espère que ça passe. Parce que j'ai horreur d'aller à l'hôpital, les cliniques, j'aime pas ça, puis je suis un peu paresseux aussi, fait que je procrastine. Je me dis, vraiment, j'aille à la clinique à un moment donné, mais je me dis, si je procrastine assez longtemps puis que je bois de l'eau et des Tylenol, ça va passer. À date, moi, je suis vraiment... Mais t'auras remarqué que les trois choix de réponse... En fait, des quatre choix de réponse, le seul qui est le vrai bon, c'est 8 à 1, dans le fond. Là. Sauf, tu sais, clinique, quand ça va vraiment pas, on s'entend. Mais les choix A, B et C, c'est en quelque part trois choix d'anxieux. La clinique, c'est comme vite tout de suite à la clinique, alors ou à l'urgence, alors que t'as peut-être rien.
Ouais.
B, Google, c'est la pire affaire. Les hypochondriaques vont tous sur Google, là, t'sais, on le sait, là. Puis ils pensent qu'ils ont le cancer de la vie. Et les C, ceux qui ferment les yeux, à quelque part, il y a un peu aussi la crainte d'avoir une maladie.
Ça c'est clair. Mon père est C, là, mais vraiment, il veut pas aller à la clinique parce qu'il dit, ah, là, j'ai une petite affaire qui me dérange un peu. Ils vont trouver quelque chose de pire.
Il y a aussi la patience. Un auditeur qui dit, moi, je suis C, j'ai un mal de dos depuis un bout de temps, mais je sais que c'est parce que j'ai pas la patience d'attendre.
On m'a donné un truc pour les B qui cherchent sur Google puis qui sont un peu hypochondriaques comme moi.
Arrêtez de faire ça. Le conseil, c'est arrêtez de googler vos symptômes.
Mieux que ça, la personne qui m'écrit dit « Je fais googler ma blonde, elle va trier l'information parce qu'elle a la tête pas mal plus froide que moi puis elle va me présenter des options, mettons, avant d'aller à la clinique. »
Si tu veux.
Fait que c'est une autre option. Regarde, en attendant de pouvoir appeler notre médecin sur Skype ou sur FaceTime, il reste toujours ces options-là. Puis d'ailleurs, dans l'étude, il était question des courriels aussi. On n'a jamais envoyé un email à notre docteur ici. J'ai l'impression que c'est vraiment marginal, ça aussi, comme pratique. Ouais. Aux États-Unis, c'est 2 médecins sur 3 qui trient les courriels puis qui sont capables de te répondre à distance.
Bon, là, je commence à me sentir un peu fébrile et étourdi.
Je vois ta face changer.
Mais je le sais, c'est pourquoi. Je le sais que c'est pas à cause que je suis malade.
J'ai vu les bacs passer.
Ouais, moi aussi, je commence à voir qu'il y a de la circulation autour du studio et ça m'inquiète beaucoup.
Dans quelques minutes, on va parler du Festival des insectes qui a lieu à l'Aquarium en fin de semaine. On va faire un Facebook Live parce qu'on a un invité et l'invité vient avec quelques spécimens. Donc, on va voir la réaction de Paul devant ces merveilleuses bestioles.
On va voir la tienne aussi,
belle blanchette. Moi, j'ai hâte de les voir. Ça, ça sont cute. Ça va être mignon. On va jouer avec ça.
Non.
Les petites tarentules.
Oh, quelle horreur.
Restez avec nous. On va être sur Facebook FM 93 dans à peu près 5 minutes.